Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Lundi 25 octobre, bon retour au travail, bon retour aux études également. Premier sujet ce matin, évidemment, le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise qui a été présenté hier par le ministre Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Grosse opération de mise en marché, c'est clair. On pose ça souvent pour annoncer un cours, non seulement les ministres responsables, mais également des personnalités. Je pense à mon ami Pierre Curzi, Danny Turcotte également qui était là, pour mettre en lumière d'un côté l'importance de la culture, des valeurs québécoises, la culture, la langue et aussi de l'éthique. Et s'il y en a un qui sait ce que c'est le manque de respect sur les réseaux sociaux, c'est bien Danny Turcotte. Personne ne peut être contre les principes qui ont été énoncés. Alors, de vouloir faire prendre conscience aux jeunes Québécois par le biais d'un cours des valeurs, de la laïcité, de l'égalité, implanter un dialogue franc, ouvert, qui permet la liberté d'expression, ce sont des valeurs extraordinaires, là. Et c'est très bien. Et le cours était probablement à être repensé. Il y avait encore des stéréotypes, notamment, puis aussi beaucoup de place accordée à la religion. Le problème, c'est, on est d'accord avec les beaux principes, quels seront les détails? Et les détails, on ne les connaît pas. Je vais parler avec un prof qui se spécialise dans l'enseignement du cours actuel, éthique et culture religieuse, et il soulève des points en disant, ce qu'on nous a annoncé hier, c'est une espèce de fourre-tout. Déjà, on parle de culture, on parle d'histoire, on parle du français, dans d'autres cours qui sont donnés. Là, il va se passer quoi? Quelle est exactement la nature du cours dans le détail? Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire abstraction de la culture des autres puis de la religion? Je ne dis pas qu'il faut donner un cours sur la religion détaillé, mais on vit dans une société moderne, une société où des gens ont différentes opinions, et de savoir qu'il y a différentes religions, tu peux être athée, tu peux ne pas croire en rien, mais en même temps, il y a des gens qui carburent à la religion, et la religion a une influence sur les valeurs. Est-ce qu'on met ça de côté? C'est quoi l'importance qu'on y accorde? Alors, tout ça pour vous dire que c'est une belle opération hier, sur les principes. Il faudra voir maintenant les détails. Et ça va prendre quand même quelques mois avant que ce soit, disons, mieux structuré. Deuxièmement, une étude, une enquête menée par l'Université de Sherbrooke sur la pandémie et ses effets nous montre que les Québécois sont pas mal fatigués. C'est l'expression utilisée, là, une fatigue pandémique. Je vous donne quelques exemples. Quand on dit « est-ce que vous êtes fatigué? » Puis ça veut dire le télétravail, ça veut dire les mesures sanitaires, ça veut dire aussi les périodes de confinement. Les parents qui sont face à des difficultés à l'école, il faut retirer l'enfant, la classe, le test, bon. C'est pratiquement un Québécois sur deux qui a de la difficulté à se remettre. Et ça se traduit de quelle façon? Ben, on peut le deviner. Ça se traduit par des problèmes souvent d'anxiété. Ça peut se traduire aussi par des problèmes peut-être moins importants, mais une espèce de dépression, de manque d'énergie. Et ce qu'on découvre, c'est que c'est particulièrement vrai dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est la région où les gens disent sont les plus écœurés, et c'est là aussi où ils débarquent des mesures le plus. On l'a vu, là, c'est pas une surprise en tant que telle. Et ça veut dire aussi, je veux plus n'entendre parler. Moi, là, je suis tanné, là, puis je veux vaquer à mes occupations, puis arrêter de m'achaler avec le virus et toutes les mesures. Donc, ça veut dire espèce de démotivation. On sent un peu de désespoir. Et les groupes les plus affectés par cette anxiété, ce sont les jeunes, 18-24, les étudiants, les gens qui ont faible revenu. Et l'autre aspect de l'enquête, c'est sur la vaccination des enfants. Puis ça s'en vient, là, quelque part au début de l'année. On voyait la semaine dernière, 70 % des gens qui, au Québec, ont l'intention de faire vacciner leurs enfants. Là, l'étude nous dit, en gros, ceux qui ont vraiment pris la décision ferme de faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans, c'est à 54 %. Les autres, il y en a un pourcentage, ça va dépendre de mon enfant. Si mon enfant le veut, ben je vais l'écouter. S'il veut pas, je vais l'écouter aussi. Il y a des gens qui sont indécis. Il y a tous ceux et celles qui veulent attendre, qui craignent un peu des problèmes qu'on a vus chez les ados, inflammation au cœur. On sait que la dose pour les enfants n'est pas la même. Et de toute façon, il faut que ça soit approuvé par Santé Canada. Alors, c'est un portrait là, de cette pandémie qui nous montre finalement cette espèce d'épuisement. Puis l'autre question qui est importante, on est rendu donc presque au mois de novembre. Est-ce qu'on peut prévoir d'autres assouplissements pour la période des fêtes? Puis je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de restos qui sont sollicités par des compagnies pour le fameux party de Noël. Pour l'instant, là, ce sont des tables de 10 avec 3 bulles. Enfin, ça fait pas un gros party de Noël, là, si tu peux pas dépasser ça. Puis pour ce qui est des salles, il y a une série de contraintes également. Alors, est-ce qu'on va permettre plus de souplesse? On a vu des gens qui ont manifesté pour avoir le droit de danser. C'est quand même pas pire. Alors, à suivre dans les prochaines semaines. Parlons du réseau de la santé maintenant. D'abord, quand vous regardez ce matin le Journal de Montréal, c'est pas un tableau surprise, là. C'est pas mal ce qu'on voit et ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire les hôpitaux qui ont des problèmes de gestion des urgences, des hôpitaux où, disons, l'équipement est désuet, les bâtisses sont tout croches, problèmes de planification, pénurie de personnel, l'attente en santé mentale, là. Vous pouvez faire la liste de ça. Puis on donne des exemples, des rapports négatifs. Puis on dit les vraies choses, dit le docteur Boucher, là, qui est le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence. Environ 85 % du problème, c'est la gestion. Il faut mieux s'organiser. Puis la gestion, là, c'est pas juste le bureaucrate, c'est pas juste le cadre. C'est aussi la rigidité de beaucoup de conventions collectives qui empêchent de faire des choses. Tu sais, quand on dit penser en dehors de la boîte, là, ben quand la boîte, elle se dépaisse, puis qu'il y a je sais pas combien d'articles différents, c'est un peu compliqué. Et on est dans une période là où c'est sûr que t'as encore des patients COVID dans les hôpitaux, mais disons que ça s'est stabilisé, puis les hospitalisations baissent, ce qui est une maudite bonne nouvelle en soi. Mais ça montre que ce réseau-là a besoin d'un puissant coup de barre. D'abord, les problèmes de personnel. On le voit, là, la course, la gestion des primes. On a vu, par exemple, des infirmières qui disent que ça n'a pas de bon sens, les primes, puis qu'on ne devrait pas fonctionner comme ça. C'est vraiment à rendre fou. Il y a le docteur Benoît Eppel, qui est le chef du département clinique de médecine générale en Estrie, là, au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui a écrit une lettre ouverte. On lui a parlé il y a 2 ou 3 semaines. Qui sonnait un peu l'alarme en disant « Si vous mettez en vigueur le décret, voici ce qui va se passer dans notre coin. » Alors, il dit « On compare souvent le système de santé du Québec à un gros navire. Je vais le comparer à un avion avec beaucoup de passagers. Un avion conçu il y a 50 ans pour transporter de façon équitable les citoyens qui en auraient besoin, peu importe leur revenu. Nous voulions au Québec avoir un avion d'avant-garde et accessible. Décennie après décennie, les soins se sont complexifiés. La médecine s'est surspécialisée. L'arsenal diagnostique et thérapeutique a fait des bonds de géant. Les besoins de la population ont explosé. Il fallait donc moderniser notre avion. On a vécu quelques réformes majeures où la peinture a été revue, la configuration des sièges ajustée et les porte-bagages modifiés. Et puis arrive le vieillissement de la population. Je pourrais continuer, mais c'est un regard assez lucide sur ce qui se passe dans le réseau de la santé. Et on l'a eu d'en face, pandémie ou pas. La pandémie est venue mettre une pression, épuiser le personnel. Puis, entre vous et moi, on se préoccupait plus ou moins, fois de temps en temps, mais sans plus, là, de ce qui se passait dans les centres de soins de longue durée. Et là, comment, et c'est ça la question fondamentale, comment vous allez convaincre les gens de venir travailler dans le réseau de la santé? On le voit dans celui des CPE, où Québec annonce un plan, puis personne encore là peut être contre. J'ajoute des places, tous les parents québécois auront, ceux et celles qu'ils voudront, là, une place en garderie. Puis là, je vais embaucher du monde en masse. Puis je vais m'assurer qu'il y ait une formation adéquate. Le syndicat dit, nous autres, on est prêts à reculer. Est-ce qu'on va se retrouver avec une entente d'ici la fin de la semaine? Peut-être. Sinon, disent-ils, il y aura des moyens de pression. Et donc, encore là, des grèves où les parents vont devoir s'organiser. Il y a Radio-Canada qui nous dit ce matin, fonctionnaires fédéraux qui sont pas d'accord avec la vaccination obligatoire. Puis, bon, en gros, ils s'organisent pour éviter de se faire vacciner. Puis ils ont trouvé toutes sortes de trucs, des subterfuges. Puis ça, je le sais, là, il y a bien des gens qui m'écrivent pour ce qui est des restaurants. Dès qu'il y a une contrainte, il y a quelqu'un qui invente un tour de passe-passe. Alors, il y a les faux codes QR, les faux passeports, puis des gens qui, par exemple, menacent de poursuivre des fausses attestations, bon, etc., etc. Vous lirez ça sur le site de Radio-Canada. Mais c'est pas très étonnant. Autre chose, ce matin, un texte publié en fin de semaine qui a fait pas mal de bruit de Serge Denoncourt dans la presse concernant Edgar Fruitier. Edgar Fruitier qui a été condamné à 6 mois de détention pour avoir agressé sexuellement à 3 reprises un adolescent qui est devenu un homme, Jean-René Tétrault, qui a dénoncé son agresseur. Serge Denoncourt raconte que lui, à l'époque, jeune acteur, se retrouvait, à 22 ans, à jouer avec Edgar Fruitier, en 1984. Et nous avons cohabité dans une pièce minuscule, porte-close, dans une loge où je m'habillais et me déshabillais chaque jour, parfois 2 fois par jour, pendant 6 semaines. Rapidement, dit Serge Denoncourt, j'ai subi les attouchements, les harcèlements, les tripotages insistants et fougueux d'Edgar Fruitier dans ma loge, seul avec lui. Je n'en garde pas de séquelles, heureusement. Et j'ai compris rapidement, dit-il, que la direction du théâtre, puis les gens qui savaient ça, qui connaissaient Edgar Fruitier, qu'il était obsédé par les jeunes hommes, mineurs ou pas, mais on disait, c'est Edgar. Qu'est-ce que tu veux? Dis-lui fermement que ça t'intéresse pas, il va arrêter. Mais Edgar Fruitier était un acteur aimé, célèbre. Puis on a vu sur les réseaux sociaux, après sa condamnation, des gens qui ont dit que c'était abusif, que c'était un vieil homme malade, puis qu'il fallait pas faire ça, puis que c'était le pauvre Edgar Fruitier. Mais Denoncourt, il dit non, c'est pas le pauvre Edgar Fruitier. C'était connu, le milieu a toléré ça, les gens le savaient, et personne ne le remettait à sa place parce que c'était Edgar Fruitier. Si vous l'avez pas lu, c'est un texte qui mérite d'être regardé. Également, on entre dans une période importante pour ce qui est de la course aux élections municipales dans les différentes villes du Québec. Il y a entre autres dans la Gazette ce matin qui parle de l'enjeu de la mobilité. Tu sais, je sais, on a parlé du centre-ville la semaine dernière, puis je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais disons que le mode télétravail a beaucoup d'adeptes. Puis on le disait avec Marc, les heures de pointe sont intenses par moment. Mais c'est un peu différent de ce qu'on voyait avant, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déplacent à différents moments de la journée. Beaucoup de gens se déplacent seuls en auto. Quand vous regardez, par exemple, l'utilisation du métro et des autobus, c'est à peu près la moitié en termes de volume. Quand vous regardez les trains de banlieue, c'est autour de 45 %. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui sont pas revenus ou qui sont revenus par un autre moyen de transport. C'est ça que ça veut dire. Et c'est clair que c'est un enjeu. Je pense à Montréal, là, principalement. Comment on va, amener les gens? Puis on a le REM qui se développe, là. Puis je vous dis pas que ça va être tout le temps comme ça. Mais moi, je pense bien que c'est terminé, là, le 5 jours semaine, au bureau, en présentiel. Je pense qu'on va passer carrément à autre chose. Il y a une grosse transaction qui a été annoncée. Candrel qui propose de racheter Cominar. C'est une transaction de plus de 2 milliards de dollars. Et ça veut dire que ce sont des tours, à bureaux du centre-ville de Montréal qui sont extrêmement connus. Et la nouvelle a été annoncée hier, là. Il y aura approbation. Il y a aussi la saga Rogers. Je vous en parle depuis la semaine dernière. Je lis ça dans Globe and Mail tous les jours. Et là, Edward Rogers, qui est en chicane avec sa mère et également deux de ses sœurs, sur comment gérer la compagnie, la présidence, le comité de direction, il s'est fait sortir par le conseil d'administration. Hier, il a tenu un autre conseil d'administration pour invalider les décisions prises par les trois membres de sa famille. Et là, on l'aurait donc à nouveau nommé comme président du conseil. Et c'est pas des farces. Et il est encore à la tête de la fiducie qui contrôle les votes. Il a l'intention de remplacer également les membres indépendants du conseil. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver avec la direction de Rogers, mais il y a deux clans, puis même au sein de la famille. Et je rappelle, pour les gens qui aiment ces histoires-là, c'est dans Globe and Mail, et si vous voulez regarder une fiction basée sur des guerres comme ça de succession, il y a une série qui s'appelle Succession, disponible sur Crave, c'est sur HBO. Il y a trois saisons, la troisième est en cours, mais c'est vraiment ça. C'est inspiré, je le disais, un peu de la famille Murdoch, puis des propriétaires de conglomérats, d'empire de presse, de médias. Et quand le patriarche s'accroche et que les héritiers veulent le tasser, ben ça donne lieu à des chicanes. Puis quand le patriarche meurt, comme dans le cas des Rogers, qui a le pouvoir? Comment la famille? Il n'y en a pas un qui serait là, c'était pas du bonhomme, là. On s'entend, là. Ils sont pas arrivés là par leur propre talent et capacité. Ils sont arrivés là parce que ce sont des héritiers. Et là, ça se pogne d'aplomb.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Notre invité ce matin en studio, le premier ministre du Québec, François Legault. Monsieur Legault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Beaucoup de choses. On va commencer par le cours sur la citoyenneté et la culture qui a été présenté hier. Les gens sont pas contre les principes, là, qu'on ait des citoyens québécois avec des notions de respect, puis d'ouverture, puis d'équité, de diversité, c'est très bien. Mais trois questions. La première, beaucoup de gens lèvent la main en disant, est-ce que c'est un cours pour en faire des Québécois caquistes avec une formation d'un certain, une certaine vision du nationalisme? Autrement dit, est-ce que le politique se mêle de l'éducation?
Non. Ce qu'on veut surtout, c'est, parce que vous vous rappelez, j'ai même joué dans le film comme ministre d'éducation. Pendant longtemps, on avait des cours de religion à l'école, catholique, protestant. Et à un moment donné, on a fait une espèce de cours de l'histoire des religions. Puis après, il y a eu ce cours-là, ECR, où là, on mettait toutes les religions sur le même pied. Et c'était pas souhaité par beaucoup de Québécois. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va beaucoup parler de démocratie, puis le mot d'ordre qui est envoyé aux experts qui vont écrire le cours, c'est de trouver une manière de rassembler tout le monde. Donc, de pas être partisan, là, de dire l'égalité entre les hommes et les femmes, on se rejoint là-dessus, le français, on se rejoint. La laïcité de l'État, sans parler des projets de loi, je pense qu'on est capable de se rejoindre là-dessus. Le racisme. Qu'est-ce qu'on fait avec les médias sociaux qui sont de plus en plus violent. Donc, il y a vraiment là, des notions de citoyens qui vont être acceptées puis acceptables par tous les partis politiques.
Il y en a plusieurs qui disent que c'est un espèce de fourre-tout qui a été créé, c'est-à-dire, on va parler d'éducation sexuelle, on va parler de la culture. Des profs qui me disent, ouais, mais la culture, on l'a déjà dans d'autres cours. L'histoire est aussi enseignée par d'autres professeurs. Est-ce que ça devient pas un peu mêlant tout ça. On prend tout ce qui fait notre affaire puis on le met là.
Ben, ce qu'on veut, dans le fond, c'est de dire l'école, c'est un bon endroit pour que nos jeunes deviennent des bons citoyens. Donc, qu'ils comprennent qu'on peut pas harceler sexuellement une femme. Je pense qu'on le voyait hier avec Ingrid Falaise qui expliquait on a des principes à donner à nos jeunes. Qu'est-ce qui arrive avec les médias sociaux? Qu'est-ce qui arrive avec nos valeurs de base? C'est quoi notre histoire? C'est quoi nos artistes là qui ont marqué le Québec? Pour que je pense que si on veut savoir où on veut aller, c'est important de savoir d'où on vient. Donc, c'est ça un peu l'histoire du cours.
Dans cette perspective-là, Québec solidaire vous demande de faire une loi sur la violence sexuelle dans les écoles et avec un paquet de modalités, parce que ça se passe beaucoup aussi au niveau scolaire. Êtes-vous d'accord avec une loi sur la violence sexuelle, pour contrer la violence sexuelle?
Ouais, on est très ouvert. Déjà, il y a des mesures, puis on va mettre un protecteur de l'élève en place. Déjà, dans chaque école, il doit avoir une ressource dédiée à ça. Donc, il y a effectivement du travail qui se fait, puis j'ai hâte de lire le projet de loi là que propose Québec solidaire. Puis s'il y a des mesures qu'on peut appliquer, puis qui ont du bon sens d'être appliquées, moi, je suis ouvert à ça.
Regardons l'état des ressources gouvernementales. Vous cherchez du monde partout, là. En gros, là, en santé, en éducation, on a des profs qui n'ont pas tout à fait les compétences, mais n'ont pas le choix de les mettre là. Vous donnez des primes aux infirmières, on ne sait pas si c'est la machine ou les syndicats qui comprennent ça tout croche. Vous êtes dans une opération chambre pour amener du personnel, puis là, je pourrais inclure les CPE, les éducatrices. Comment vous allez faire pour les convaincre? Le matin, des gens qui vous écoutent, là, pourquoi j'irais travailler dans un hôpital où je regarde le journal de Montréal et on me dit que c'est mal planifié, que les gestionnaires font des problèmes d'administration, manque de personnel, c'est désuet, pas bien ben attirant.
Bon, d'abord, c'était un problème qui était là avant la pandémie.
Oui.
Hein, on le voyait, les taux de chômage étaient très bas, mais ça s'est accéléré. C'est pour ça que c'est une raison importante pourquoi j'ai décidé de faire un discours d'ouverture, donc de reprendre nos priorités, parce que, bon, quand on touche aux sciences humaines, au sens large, l'éducation, les éducatrices, les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmières, on peut pas remplacer ça par des robots. Et puis la pandémie a fait mal, a fait peur à certains, et faut bonifier les salaires. Puis c'est la première fois, vous savez, M. Arcand, là, vous avez été dans l'entreprise privée. Dans l'entreprise privée, on donne pas les mêmes augmentations de salaire à tous les employés de l'État. Nous, pour la première fois, on a augmenté de 15-20% les salaires de certains.
Mais est-ce que ça va être suffisant?
Ben là, l'autre chose qu'on essaye de faire, c'est
bien beau la paye, là, mais si l'hôpital est vétus, si on est, je voyais, bloc opératoire, 50% de moins en termes d'infirmières, vous avez beau me payer plus cher, c'est pas bien tentant non plus.
Oui. Ben c'est là aussi qu'on dit qu'il y a une nouvelle manière de gérer les ressources humaines. Parce que, pour toutes sortes de bonnes puis de mauvaises raisons, là, à travers les années, puis je parle de 10, 15 ans, on a développé une gestion beaucoup du temps supplémentaire obligatoire. C'est-à-dire que il nous manquait d'infirmières, mais on se disait, à cause du code d'éthique, les infirmières, on peut les obliger à faire deux quarts de travail de suite, ce qui est inhumain. Et on n'a pas mis assez d'emphase sur la qualité des horaires de travail des infirmières. Mais évidemment, le fait que pendant la pandémie, on a perdu des infirmières, ça veut dire qu'il restait moins d'infirmières pour faire le travail. Donc, c'était plus dur pour ces infirmières-là. L'autre chose, 40% des infirmières dans notre réseau sont à temps partiel. Imaginez-vous, là, moi, je dis souvent mon exemple, quand j'étais président d'Air Transat, si j'avais eu mes pilotes ou mes agents de bord, où 40% étaient à temps partiel puis pouvaient travailler.
Mais on les comprend pourquoi elles ont choisi le temps partiel. Elles vont faire autant d'argent en 2-3 jours qu'avec un horaire complet, puis au moins c'est prévisible. Elles savent que jeudi, je travaille pas, mais je vais être chez nous, là, je serai pas prêt à l'hôpital. Mais pour être plus précis, le 15 novembre, êtes-vous convaincu que vous n'aurez pas besoin d'appliquer le décret?
Bien, écoutez, on l'espère d'être capable d'appliquer le décret. On va sûrement être capable de l'appliquer à certains endroits. Christian Dubé, par exemple, disait, dans les urgences, là, c'est sûr qu'il faut l'appliquer. Parce que il y a un contact très proche avec les patients. Donc, il y a des régions aussi, on va être capable de l'appliquer. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est de l'appliquer partout. Mais même s'il y a 3% seulement des infirmières qui ont refusé d'être vaccinées, ben c'est un 3% qu'on a besoin parce qu'il nous en manque déjà 4000. Là, on est rendu qu'on a recruté déjà plus de 2000.
Mais ça veut dire que ça pourrait être repoussé au 15 décembre pour la suite, puis le 15 janvier pour la suite.
Ben écoutez, comme je vous dis, on va sûrement l'appliquer à certains endroits. On aimerait l'appliquer partout.
Les médecins de famille.
Oui.
Les Québécois attendent et attendent pour avoir accès à un médecin de famille. Là, il y a même un collègue de l'Assemblée, M. Zanetti, là, qui a publié pour sa mère en fin de semaine un message sur les réseaux sociaux. Gaëtan Barrette trouve que vous avez la bonne approche. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça?
Ben, on avait beaucoup parlé quand Gaëtan était avec la CAQ. C'est un problème qui existe depuis longtemps. C'est qu'il y a des médecins de famille qui jouent la game, comme on peut dire, puis qui prennent en charge leurs 1000 patients. Puis il y en a d'autres qui font du bureau sans rendez-vous 3-4 jours par semaine puis qui travaillent pas le soir puis la fin de semaine. Résultat des courses, 50% des patients qui sont dans nos urgences ont pas d'affaires là, auraient dû être traités dans une clinique. Donc,
mais ça fait 25 ans qu'on se dit ça au Québec.
Effectivement. Puis je peux vous dire, moi dans ma vie, là, autant dans le privé que dans le public, j'ai négocié avec des syndicats, la CSN, la FTQ, mais le syndicat qui est le plus puissant, il s'appelle la FMOQ, la Fédération des Omnipraticiens. Et surtout à Montréal, là, c'est très difficile de les obliger à prendre en charge un certain nombre de patients.
Mais je vais me faire l'écho de ce qu'ils disent. Il y en a qui m'écrivent, oui, puis ils me racontent. Ils disent que vous êtes débranchés de la réalité. Que un, ils font bien de la paperasse parce qu'ils n'ont pas le choix. Que deux, il y en a qui ont des tâches d'enseignement. Que trois, il y en a qui ont des tâches à l'hôpital. C'est pas la même réalité qu'en Ontario. C'est pas parce qu'ils veulent pas voir de patients, c'est qu'ils font déjà des semaines très longues de 60 heures facilement. C'est une mauvaise lecture, disent-ils, que vous avez.
Bon, d'abord, il y a des médecins de famille qui n'ont pas accepté d'être en GMF, en groupe de médecine de famille, où là, il y a des ressources pour faire la partie paperasse. Ensuite, ben là, il faut aussi être capable de travailler le soir, la fin de semaine. Il y a des gens qui sont malades durant le soir puis la fin de semaine. Donc, faut être prudent. Évidemment, faut tenir compte de ceux qui travaillent.
Mais c'est un enjeu de la prochaine élection, là.
Ben, c'est un enjeu qui est important pour les prochains mois, puis probablement les prochaines années, on n'arrivera pas à solutionner tout le problème.
Mais est-ce que le message que vous leur envoyez, c'est de dire, vous en prenez plus, ou ben donc, je coupe votre rémunération, c'est ça?
Ben, rappelez-vous, puis c'est pour ça que Gaëtan Barrette appuie notre démarche. Gaëtan Barrette avait adopté un projet de loi qui s'appelait le projet de loi 20. Il a donné 2 ans aux médecins de famille pour prendre en charge un certain nombre de patients, puis les médecins de famille n'ont pas livré. Donc là, techniquement, on pourrait utiliser le projet de loi de Gaëtan Barrette pour couper de 30% la rémunération de certains médecins de famille. Bon, est-ce que c'est ça la meilleure approche? Moi, j'aimerais avoir une entente avec eux autres, mais...
Mais vous ne les présentez pas comme quelqu'un de... C'est pas un syndicat facile, vous dites.
C'est pas un syndicat facile.
Mais vous êtes prête à prendre la manière forte, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas d'entente.
Je pense qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a souvent des médecins de famille qui prennent en charge beaucoup de patients, qui me disent « c'est pas juste ». Mes collègues, là, en prennent pas en charge, puis c'est moi qui subis les conséquences de ça. Je suis obligé d'aller travailler plus souvent à l'urgence. C'est comme l'œuf puis la poule. C'est parce qu'il y a pas une première ligne forte, il y a des médecins de famille qui sont obligés d'aller travailler à l'urgence, à l'hôpital, pour prendre des patients qu'on appelle P4, P5, des petits problèmes qui auraient dû être gérés avant.
Projet de loi sur la réforme du droit de la famille. Les transgenres disent qu'avec ce qu'il y a sur la table, là, ça prend une preuve médicale d'un changement pour pouvoir modifier le sexe de la personne. Donc, ça veut dire une opération, il faut qu'il y ait une preuve médicale qu'il y a un changement physique des organes génitaux. Ils disent que c'est de la discrimination, que vous ne devriez pas mettre ça dans votre projet de loi.
Bon, écoutez, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Ce que j'ai compris de Simon-Jolin Barrette, c'est que dans les documents civils, on peut changer le genre. Mais pour changer le sexe, ben il y aurait comme une opération chirurgicale qui est nécessaire parce que bon, faut qu'il y ait comme une preuve.
Mais si la personne vous le dit.
Mais ben c'est ça. Puis est-ce qu'on peut changer souvent de sexe? Moi, je suis ouvert là, à regarder. L'objectif du projet de loi, c'est de donner plus de droits aux transgenres et que ça soit plus possible de l'inscrire. Maintenant, le genre, le sexe. Il y a différentes étapes à franchir, puis on est ouvert aux discussions.
Est-ce qu'on va avoir d'autres assouplissements avant Noël? Les Québécois, ils vous écoutent ce matin, là, puis ils pensent à leur party. Il y a des employeurs qui disent, ouais, mettez un peu les restaurants, là, c'est une table de 10, 3 bulles. Allez-vous mettre un peu de lousse sur la table pour le temps des fêtes ou s'il faut attendre à janvier pour la vaccination chez les enfants?
Ben, moi, j'espère. Bien honnêtement, je veux faire attention parce que l'année passée, j'ai été obligé de reculer. Mais j'espère, pour le temps des fêtes, d'être capable d'annoncer des assouplissements. Évidemment, depuis 20 mois, on écoute les recommandations de la santé publique, donc du docteur Arruda. Donc, on va continuer de les écouter. Je comprends...
Les gens manifestent pour aller danser. Vous avez vu ça en fin de semaine?
Moi, j'ai vu ça pour aller danser. Là. Ça me manque, moi aussi, si vous ne pouvez pas savoir comment. Non, c'est des farces. Mais peut-être mon épouse. Mais je comprends les jeunes là de se dire, quand on va dans un bar, ben oui, on lâche notre fou puis on aimerait ça être capable de danser. Je les comprends. Puis je sens, quand je parle au docteur Arruda, qu'il y a des changements qui s'en viennent, mais bon...
Il y a une ouverture.
Il y a une ouverture.
OK. Est-ce que vous êtes... Je regarde le retour en septembre et tout ça. Étiez-vous plus fatigué, plus à fleur de peau? Quand, tu sais, des fois, tu dis, il se pogne avec Gabriel Nadeau-Dubois, il traite de woke, là, il dit, c'est Maurice Duplessis qui est en face de moi, puis là, ça, vous n'aimiez pas ça. Étiez-vous plus fragile?
Ben, j'ai toujours été quelqu'un, comment je dirais ça, d'émotif. Hein? Je prends ça à cœur, je suis passionné. Quand Gabriel Nadeau-Dubois me traitait de Duplessis, ben j'ai répondu, j'aime mieux Duplessis qui est un woke, qui défend pas les... Parce qu'à l'époque, il y avait le débat sur les compétences du Québec face à Justin Trudeau. Puis lui, il avait dit, ben les compétences, ça m'intéresse pas. Puis je lui avais dit, ben voyons donc, Duplessis a défendu les compétences du Québec. Je ne veux pas dire que Duplessis était parfait, mais ça m'arrive de me choquer, comme tous les êtres humains, mais ce n'est pas parce que je suis fatigué. Wow.
Mais là, vous avez perdu vos élections fédérales. Vous aviez dit aux Québécois, votez pas pour Justin Trudeau. Là, il est là. Comment ça se passe avec lui?
Ben, j'ai eu une conversation avec lui, puis ce que je sens, c'est que j'ai l'appui des Québécois. Quand on demande aux Québécois, d'abord, êtes-vous d'accord que le projet de loi 21 pour interdire les signes religieux, une grande majorité est avec moi, donc contre Justin Trudeau, qui aime pas cette loi-là. Quand je demande plus de pouvoir en immigration, j'ai les Québécois avec moi. Quand je dis le Québec doit avoir plus de pouvoir...
Mais vous prononcez pour, pendant une élection, de revendiquer des pouvoirs, c'est une chose, mais dire « votez pas pour un parti comme celui de Trudeau », puis là, il est au pouvoir, ça doit faire des relations un peu plus froides.
Ben, ça fait des relations un petit peu plus froides, mais en même temps, moi, c'est pas vrai que je vais juste pour lui faire plaisir, ne pas défendre les intérêts du Québec. Moi, je suis quelqu'un de nationaliste. Quand quelqu'un dit, on va ajouter des fonctionnaires à Ottawa pour venir vous dire comment gérer les CHSLD, là, ben, ça me choque, puis je dis, attention, ce gars-là, il est dangereux, c'est un centralisateur, alors que nous, ce qu'on veut, c'est un Québec qui a plus d'autonomie, parce qu'on est une nation. Donc, évidemment, c'est interprété comme étant « Ah, j'appuie d'autres partis ». Bon, évidemment, si je parle d'Erin O'Toole et les conservateurs...
Vous n'avez pas voté libéral fédéral, ça, c'est sûr.
Non, mais regardez, ça dépend des sujets. Sur l'environnement, je suis peut-être plus proche de Justin Trudeau que d'Erin O'Toole. Mais pour moi, la priorité des priorités, c'est de défendre les pouvoirs de la nation québécoise. C'est ça ma priorité.
Avez-vous une opinion sur l'élection à Montréal?
Non, je n'ai pas d'opinion sur l'élection à Montréal.
OK. Techniquement, vous pourriez déclencher l'élection au printemps prochain. Je dis bien techniquement. Est-ce que vous avez l'intention d'attendre à l'automne ou si vous gardez, comme on dit, toutes les cartes entre les mains?
Non. Là, on a choisi au Québec d'avoir une loi puis des élections à date fixe. Ça va être le 3 octobre 2022. Et
pas
avant. Non.
C'est vrai, vous voulez un deuxième puis un troisième mandat?
Ben, écoutez,
ça, c'est comme Duplessis.
Écoutez, il y a du monde qui me le demande. Évidemment, c'est une question de santé, mais c'est surtout la décision des Québécois. Si les Québécois me supportent puis m'appuient pendant 1, 2, 3 mandats, ben, ça va être aux Québécois de décider. Moi, de mon côté, actuellement, je me sens en forme. Je sais qu'il y a beaucoup de changements encore à faire au Québec. Et puis, je suis prêt à rester, mais c'est aux Québécois là, de décider.
Monsieur Legault, merci d'être venu ce matin.
Merci, M. Arcan.
Premier ministre du Québec, François Legault.
L'essentiel de Paul Arcan.
Mais il y a une étude qui est publiée par l'Université de Sherbrooke. Et c'est une étude qui nous montre que les Québécois ont, et ça se comprend, un niveau assez élevé de fatigue pandémique. J'en parle avec Dr. Mélissa Généreux, qui est professeure, chercheuse à l'Université de Sherbrooke et aussi médecin conseil à la Direction de santé publique de l'Estrie. Dr. Généreux, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend d'abord par fatigue pandémique? Comment on définit ça?
Oui, c'est super intéressant comme concept. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle pas ici de la fatigue en termes de baisse d'énergie, burn-out ou dépression, par exemple. On est vraiment dans une fatigue avec une fatigue en lien avec l'information qui découle de la COVID. On n'est plus capable d'en entendre parler. Et de l'autre côté, une fatigue liée aux efforts qui sont demandés de la part de la population pour être capable de lutter contre la COVID. Donc, la fatigue pandémique, c'est ce cumul-là de fatigue qui nous est demandé ou qui découle là, du fait qu'on est en pandémie depuis une vingtaine de mois.
Mais on a un lien, là. On comprend que tout le monde est tanné de ça, là, puis on aimerait passer à 100% à autre chose. Mais est-ce que le fait d'être tanné amène les gens à lever le pied, à être moins, disons, respectueux des règles sanitaires, à faire moins attention?
Mais en fait, c'est ce qu'on voulait tester à travers notre étude. C'est ce que la science commence à démontrer aussi. Bien sûr, si vous êtes juste un petit peu tanné, comme on l'est probablement tous, c'est une chose. Mais si vous tombez dans la moitié de la population qui en ce moment souffre réellement de fatigue pandémique, mais ce que nos résultats démontrent aujourd'hui, c'est que vous êtes deux fois plus à risque de ne pas vouloir adhérer aux mesures sanitaires, de vouloir lâcher prise, autrement dit, d'être tanné de porter le masque, de respecter la distanciation et même, malheureusement pour les parents, d'être prêt à vouloir faire vacciner son enfant lorsque le vaccin sera rendu disponible.
OK, mais parlons-en tout de suite des vaccins pour les enfants. Là, en gros, l'enquête montre que 54 % des parents ont la ferme intention de faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans. Il y en a qui vont attendre, il y en a qui sont pas certains, il y en a qui vont demander l'avis de l'enfant. Est-ce que ça vous étonne de voir que, disons, qu'il y a une faible majorité seulement qui pense à la vaccination pour leurs enfants?
Bien, c'est sûr que je suis médecin de santé publique, je passe mes journées à travailler avec les éclosions dans les écoles, puis on espère ardemment là, que les parents vont pouvoir adhérer à cette mesure-là. Là, on a vu à quel point au niveau des écoles secondaires, ça a vraiment ralenti la transmission. On n'a presque plus d'éclosion. La situation est stable. Donc là, dans ce contexte-là, oui, je mon petit côté médical, je suis un peu déçue ou j'espère que c'est seulement des craintes qui vont s'estomper une fois que le vaccin sera rendu disponible. Mais d'un autre côté, je ne suis pas vraiment surprise dans un contexte où ce qu'on vient de vous dire, c'est que la moitié de la population est fatiguée de la pandémie et ça l'amène à être un peu plus réticent à faire des efforts supplémentaires, notamment pour leurs enfants.
Ce que j'entends beaucoup des parents, c'est de dire, bon, un, mes enfants ont pas besoin d'être vaccinés. Nous, les parents, nous le sommes. Je suis pas trop certain des effets secondaires. Il y a un peu, c'est pas des anti-vax comme tels, mais des gens qui sont plutôt inquiets des effets secondaires, puis de la pertinence, puis de la nécessité d'un vaccin pour un enfant de 6 ans ou 7 ans.
Ben oui, c'est super intéressant. On voit même dans notre étude que même les parents qui, eux, ont reçu un vaccin, au moins une dose, ben 60 % d'entre eux seulement ont l'intention ferme de faire vacciner leur enfant. Donc, autrement dit, il y en a quand même 4 sur 10 parmi les gens qui se sont fait, eux, vacciner, qui hésitent pour leur enfant. Ce qui laisse croire que c'est pas comme vous dites que c'est pas seulement une opposition ferme au vaccin, mais je reviens vraiment sur cette fatigue-là, c'est-à-dire quel risque je suis prêt à prendre peut-être pour mon enfant, tu sais, cette tendance peut-être à adhérer à des idées un peu plus simples ou fausses par rapport au vaccin, parce que justement on est tanné d'aller contrevalider des faits, d'aller chercher sur Internet, donc on se met à pétifier sur la discussion de corridor ou ce qu'on a vu sur Facebook, puis par le fait même adhérer à des visions un petit peu plus complotistes ou bref, peut-être pas prendre la décision qui est la plus assise sur le consensus scientifique actuel.
Et ça se traduit quand même par des symptômes physiques. Là, je regardais la liste. On est démotivé, il y a un peu de désespoir, on se sent un peu plus isolé. C'est pas juste dans la tête, là, ça a un reflet sur les comportements aussi.
Ah ben totalement. Là, la fatigue pandémique, c'est ce qui se passe dans notre façon de réagir à la pandémie, c'est une chose. Mais premièrement, ce qu'on voit dans notre étude, c'est que les gens qui souffrent de fatigue pandémique sont aussi deux fois plus à risque de développer après ça des problèmes plus sévères, soit d'anxiété généralisée, de dépression, même d'idées suicidaires, troubles de concentration au quotidien, troubles de sommeil. Donc, c'est bien réel. Là. Ben, c'est relativement normal. Si si à un moment donné, notre corps n'en peut plus de faire ces efforts-là, notre cerveau n'en peut plus de lire là-dessus, ben à un moment donné, ce laisser-aller-là, cette démotivation-là peut entraîner des conséquences encore plus graves.
Pourquoi il y a une différence, selon vous, entre la région de Montréal et Chaudière-Appalaches? C'est comme si les gens étaient encore plus fatigués, tannés, écœurés en Chaudière-Appalaches.
Super intéressant comme résultat. Là, honnêtement, même moi, sur le coup, je savais pas trop où on allait avec les différences par région. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'à Montréal, probablement qu'on a vécu le risque lié à la COVID de plus près. Hein. Ça a été omniprésent pratiquement depuis le début. C'est encore là. Donc, les gens sont encore conscients d'un risque lié à la COVID, d'une menace qui est omniprésente, dont qu'on doit intégrer dans le quotidien. Donc, la motivation à implanter les mesures qui nous sont demandées est beaucoup plus grande. Donc, moi, ce que je vois, c'est que dans le coin du Saguenay, Capitale-Nationale, Chaudière, Beauce et tout ça, on voit que probablement les gens perçoivent la menace comme étant un petit peu plus loin et ils comprennent surtout que les conséquences sur leur vie sont beaucoup trop grandes et en valent peut-être pas la chandelle par rapport aux risques qu'ils perçoivent de façon moins prononcée que ce qu'on perçoit à Montréal. C'est comme ça que je l'expliquais.
Merci, docteur Généreux. Bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On est d'entendre M. Legault au sujet de ce nouveau cours qui a été présenté hier. On connaît les orientations. Il faudra voir par la suite les détails. Mais je pense que c'est important d'avoir le point de vue de ces enseignants, ceux qui donnent le cours, qui l'ont élaboré, qui ont été consultés aussi par le gouvernement sur cette question-là. Marc Cheverry est avec nous. Il est enseignant au secondaire, éthique donc et culture religieuse, et a préparé le mémoire pour l'Association québécoise en éthique et culture religieuse. Monsieur Cheverry, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand. Merci de m'inviter à votre émission.
Ça me fait plaisir, monsieur. J'aimerais entendre d'abord vos premières impressions, premiers commentaires sur les grandes lignes de ce cours qui nous ont été présentés hier.
Ben, en fait, je dois vous dire que ce matin, en réfléchissant à notre rencontre, j'avais une image qui me venait en tête. J'ai l'impression qu'on a débâti la maison que j'habitais, une partie de la maison, sans prendre la peine de faire un bilan rigoureux d'une partie de cette maison. En fait, je suis plutôt déçu parce que on a été pendant plusieurs mois mis de côté. Et tout à l'heure, vous parliez d'une consultation qui avait eu lieu avec les enseignants. Cette consultation-là nous a donné peu d'occasion de s'exprimer, pour dire franchement. Et comme l'adjoint au ministre, M. Jean-Bernard Raymond, parle d'un processus rigoureux, sachez que les spécialistes de sondage critiqueraient ardemment tout le processus, la consultation en ligne qui était à laquelle pouvaient répondre autant les personnes autant de fois qu'elles voulaient, les mémoires de différents organismes qui n'ont jamais été rendus publics, et les forums de consultation où nous représentions les professeurs environ 2 à 3 % des forums et tous les autres participants, sauf une fois dans mes journées, puisque j'agissais en tant que président de la QSR à ce moment-là, les gens ne connaissaient même pas les thèmes enseignés dans le programme actuel. Alors donc, ce qui nous déçoit d'abord, c'est certainement la mise en veilleuse de la culture religieuse, et ce, malgré l'avis du Conseil supérieur d'éducation. Le ministre, hier, disait qu'il avait lu plusieurs rapports, et c'était une réponse à plusieurs rapports. C'est étonnant qu'il ne parle pas de cet avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Mais pour que les gens vous comprennent bien, M. Cheverry, là, vous insistez beaucoup sur la culture religieuse. Pourquoi c'est important à ce point-là? Les gens qui écoutent ce matin, ils disent, on nous présente un cours, c'est la culture québécoise, les grands principes de l'égalité homme-femme et tout ça. Pourquoi on a besoin de parler autant de religion?
Ben, en fait, je dois vous dire, on n'en parle pas beaucoup pour une simple raison. Parce que la culture, c'est très vaste. Ça concerne les arts, ça concerne la langue, ça concerne l'histoire, etc. Qu'on retrouve dans toutes les autres disciplines secondaires. Et la culture religieuse occupe une mince, mince place dans l'univers culturel que les jeunes découvrent au fil de leur parcours scolaire. Alors, on veut pas qu'on jette complètement la culture religieuse parce que c'est le seul endroit où on en parle, alors que les autres vecteurs de la culture sont complètement présents, M. Arcan. Alors pour nous, on considère que dans le monde actuel, c'est important d'aller à la rencontre des autres avec leur diversité. Il ne s'agit surtout pas ici de prosélytisme religieux. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le jeune découvre les cultures qui l'environnent. Et dans le monde actuel, me semble-t-il, mettre ça dans le placard, c'est tout à fait irresponsable.
Le ministre Roberge a dit à ce micro la semaine dernière que c'était un cours où il y avait des images un peu clichés, préjugées. Donnez l'exemple, quand on parle de l'islam, des musulmanes, automatiquement, ils doivent être voilés. Je n'ai pas suivi votre cours, je ne le connais pas, mais est-ce que vous avez l'impression...
Non, c'est ça, c'est dommage, oui.
Non, mais avez-vous l'impression qu'il fallait dépoussiérer le cours?
Ah, ben, écoutez, on avait même proposé au ministre Roberge, dans notre mémoire, de faire des ajustements. Je peux même vous dire que j'avais suggéré au ministre Roberge un cours qui aurait pu s'appeler Éthique et vision du monde, pour inclure les visions séculières et les pensées agnostiques. Mais ce qu'on voulait pour nous là, c'est important de pas faire un bilan sur la base de préjugés. Écoutez, M. Legault dans son point de presse s'est servi des manuels. Depuis quand fait-on l'évaluation d'un programme en fonction des manuels que le bureau d'approbation du matériel didactique a lui-même approuvé? Alors pour nous, il n'y a pas eu de bilan rigoureux du cours, et tellement pas que au moment où on a fait les forums, on a mis 8 thèmes sur la table. En évacuant la culture religieuse, nous aurions été les premiers à vouloir échanger à ce sujet-là. Mais le ministre, lui, a décidé, puis on ne sait même pas qui exactement, on n'a jamais pu, parce qu'il y a une certaine forme d'obscurantisme dans la démarche du gouvernement. On ne sait pas qui a pensé les thèmes, d'où est-ce qu'ils viennent, et puis on a mis ces thèmes-là sur la table, puis on a demandé à des gens, êtes-vous pour l'éducation à la sexualité, êtes-vous pour les relations, une éducation aux relations interpersonnelles, êtes-vous pour la citoyenneté numérique? Bien évidemment, tous les partenaires du ministère de l'Éducation sont pour la vertu, comme moi aussi. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'analyser les fondements de la maison pour savoir s'il fallait vraiment en débattre la moitié.
Là, on voit les principes, reste à venir les détails, comment tout ça va s'articuler, absolument, comment ça va être décliné, parce que il y a personne, comme vous dites, qui est contre la vertu. On est d'accord pour que les gens développent le respect de l'autre, la compréhension de l'autre, qu'ils aient un comportement éthique. Accepte les différences, mais encore faut-il voir quels seront les éléments du cours. On ne le sait pas pour l'instant.
Non, c'est là le flou. Je dois vous dire que moi, j'ai suivi ça parce qu'à cause de la fonction que j'occupais comme président pendant un an et demi, et vous savez que l'information, on a toujours eu ça à la goutte. On n'a même pas eu le droit au rapport des sondages. On nous a donné quelques interprétations des sondages. Alors, nous, on peut dire, on dénonce une opacité dans le processus parce qu'on n'était pas au rendez-vous. Et si vous regardez la conférence de presse, comment c'est assez ironique. Le ministre sort et le ministre invite 3 personnes de l'extérieur, et pourtant les professeurs d'éthique et de culture religieuse, les acteurs sur le terrain, ne sont pas là.
M. Chevary, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Marc Chevary est enseignant au secondaire et aussi a rédigé le mémoire pour l'Association québécoise en éthique et culture religieuse.
L'essentiel de Paul Arcand.
Nos invités pour parler de leur livre, Les dessous de la poche bleue, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Bonjour à tous.
Bonjour,
les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors, Alain, je vais poser la première question, si
vas-y, vas-y.
Ça a été créé alors que vous étiez en état d'ébriété.
Oui.
C'est un bon départ, ça, pareil.
C'est énorme, mais...
Mais c'est un projet que j'avais en tête depuis quelque temps. J'avais lancé Max parce que je voyais Max puis moi faire ça ensemble. Je voyais pas ce projet-là avec quelqu'un d'autre. Puis j'avais eu des idées. J'avais parlé de ça à Max une couple de fois. Puis, je joue encore. Il était en Allemagne. Puis finalement... Un soir, c'est ça, on était sur une conversation FaceTime avec quelques amis durant la pandémie, puis je pense qu'il avait pris un verre de trop pour qu'ils disent oui. Puis on s'est retrouvés sur Instagram Live, puis 70 personnes, ça double chaque jour, les gens, des messages, puis on dit tabarouette, on voulait le faire un soir pour s'amuser, puis finalement, ben on
mais pourquoi vous, tu voulais faire ça?
Ben, je trouvais ça intéressant d'emmener une dimension différente de... Je trouve qu'on a une vision des athlètes, des joueurs de hockey surtout, on les met souvent comme, tu sais, on a souvent la cassette, on a souvent toujours la même réponse, puis c'est le fun d'aller dans une dimension différente, mais surtout d'avoir du temps. Tu sais, tu fais une entrevue, t'as 50 journalistes, t'as pas le temps de dire ce que tu veux, puis t'es pas permis de dire ce que tu veux, puis là, je pense qu'on est capable d'aller sans tabou avec le temps qu'on a. Ouais.
Mais avez-vous l'impression que les athlètes, les joueurs de hockey sûrement, et même les... vont avoir tendance peut-être à se confier davantage parce que vous êtes vous-même d'anciens athlètes, anciens joueurs de hockey aussi. Là. Vous connaissez la business, vous savez comment ça marche.
Oui, exactement. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens sont très, très confortables dans l'entrevue. Et puis oui, ça aide qu'on prenne une petite bière et tout ça, les invités aussi. Mais on dirait qu'on oublie à un moment donné 10 minutes dans l'entrevue où on est, puis les gens s'ouvrent, parlent de leurs secrets, leurs anecdotes et tout ça. Puis c'est pour ça qu'on a créé ça un petit peu, parce que nous-mêmes, en étant anciens joueurs du Canadien de Montréal, on trouvait qu'il y avait une certaine limite entre nous et les partisans, tu sais, ça s'arrête tout le temps à une autographe, une entrevue, puis on peut pas parler plus que ça parce qu'on veut pas non plus se mettre dans le trouble, on veut pas trop en dire. Et puis si tu vas dans un restaurant, tu iras pas prendre une bière en tant que joueur actif avec un partisan puis parler de tes sentiments. On s'entend qu'il y a pas grand chose qui fait, il y a pas grand monde qui font ça. Alors de notre côté, on avait la chance finalement de dire on est un livre ouvert, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, et puis les gens adorent ça. Et puis d'une certaine façon, on veut remercier le public, les gens qui nous ont encouragés comme joueurs hockey, qui nous a encouragés lors des débuts de la poche bleue, et puis on a l'impression que c'est juste une grosse gang d'amis.
Mais est-ce que les athlètes d'aujourd'hui là, ont maintenant tendance, en tout cas, sont moins réfractaires à l'idée de s'exprimer? On a vu des athlètes aux Jeux olympiques dire « Moi, j'arrête parce que ça va pas ». On a vu une joueuse de tennis championne dire « Moi, je suis plus capable de pression. » C'est comme si, puis bon, Carey Price, Jonathan, ouais. C'est comme si de jeunes athlètes sont maintenant plus conscients de ça et n'hésitent pas à le faire.
Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est le 24 sur 24, dans le sens que les réseaux sociaux sont présents, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le passé. Il y a une évolution au niveau des générations, de la façon qu'on gère nos réseaux sociaux, comment on est autonome du message qu'on veut donner. Tu sais, regarde, Piqué Subban, c'est un brand. C'est un joueur de Ligue nationale, mais c'est un brand. On a rarement vu ça. Je pense qu'on est rendu là, c'est que les gars se retrouvent souvent 24 sur 24, 7 sur 7 en représentation. Ils ont plus de moment pour, comme dans le temps, peut-être aller manger au restaurant, puis qu'ils sont juste en chum, puis que c'est tranquille. À cette heure, il y a des photos, il y a tout. Donc, ça devient plus pesant. Donc, je me mets dans la situation de Carey Price. Tu sais, c'est tout le temps, c'est sans arrêt, c'est une pression qui est énorme. Tu te rends en finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est toutes ces choses-là, je pense, qui deviennent plus difficiles pour les joueurs.
Dans le livre, vous parlez de la poche bleue, mais vous parlez évidemment de vos expériences comme joueur de hockey. Puis, comme on dit, pas de langue de bois. Vous parlez d'un vestiaire divisé, des clans à l'intérieur. Même parfois, c'était physique. C'était dur comme atmosphère, puis de bâtir une équipe où ça fait partie de la vie qu'il y ait des joueurs qui sont plus à l'aise ensemble, là, Greg Rivet, Koivu et tous les autres, par rapport à d'autres?
Ben pour nous, c'était particulier parce qu'on était jeunes encore, donc on appréciait tout simplement le moment d'être dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Maintenant, lorsque j'écoute l'entrevue, je réalise que ça allait pas si bien que ça dans le vestiaire. Il y avait des clans, peut-être on était les deux seuls à sourire dans le vestiaire, mais oui, c'est le monde du hockey, c'est difficile. Faut comprendre que dans la vie, qu'on soit au travail ou dans le sport, tu t'entends pas bien avec tout le monde. Je pense que le mot-clé a toujours été de au moins se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer, mais de se respecter pour être capable de performer sur la patinoire. Et puis, c'est Marc Ribeiro qui disait ça.
Une des places pour nous, c'est qu'on était 8 Québécois. T'sais, on a été chanceux de ce côté-là. Les Bégin, Bouillon, Dandonneau, tous les gars, Alex Tanguay, qui nous ont entourés, qui nous ont aidés en rentrant. On n'a peut-être pas vu ces choses-là, mais il reste qu'une équipe de hockey, c'est une micro-société avec du monde de la Finlande, de la Russie, de la Suède. Tu rentres toutes ces nationalités-là, on est différents. C'est sûr, si je me retrouve avec 4 Québécois, j'ai goût de parler français, que je sois dans un vestiaire de la Ligue nationale. Mais le respect, c'est que s'il y a un Anglais qui arrive ou un Suédois, on va parler tout le monde le même langage. Mais oui, c'est certain que des fois, on n'a pas les mêmes mœurs puis les mêmes façons de penser.
Vous avez joué ailleurs que Montréal. On parle toujours de Montréal comme d'un cas particulier. Puis quand tu as eu l'affaire Price, là, justement, que tu es soumis aux pressions des fans, des médias, puis est-ce que c'est vraiment très différent et difficile de jouer à Montréal?
Mais faut s'entendre que difficile, c'est pas que les gens sont négatifs ou sont méchants, c'est que c'est 24 heures sur 24, comme Guillaume l'a mentionné. Tu peux pas aller à l'épicerie puis juste aller chercher ce que t'as allé chercher puis t'amuser en sifflant. C'est pas comme ça. Tu t'arrêtes, tu parles d'hockey tout le temps, puis moi, j'aimais ça, là.
À Vancouver, tu peux faire ça, toi.
Ouais, exactement. Tu sais, je suis un joueur de quatrième trio, là. Je me faisais pas reconnaître partout, mais tu sais, pour Carey Price, par exemple, il peut pas aller au cinéma tranquillement avec ses filles. C'est sûr et certain que tu sens toujours que tout le monde parle de toi, se retourne puis chuchote. Tu sais, c'est une belle pression, je trouve, mais il y a des gens qui sont pas capables de gérer ça. Et puis, on l'a vu dans les dernières années, il y a plusieurs joueurs qui sortent publiquement, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de recul. Et puis, je trouve ça normal. Il y a les réseaux sociaux aussi qui font que t'as vraiment l'impression que t'es dans le spotlight 24 heures sur 24. Et puis, quand on parle de pression, ça veut pas dire que les gens nous lancent des tomates nécessairement.
Non mais moi, je me souviens avec Guillaume Latendresse. On faisait les sports ensemble. Quand t'arrives au camp d'entraînement, francophone, tu comprends, il va compter des buts. Le sauveur est arrivé. Premier match.
C'est souvent ça l'aspect entre les attentes. C'est souvent ça le plus difficile à Montréal. Tu sais, je pense que, je le dis souvent à Max, un gars dans son rôle, quatrième trio, joueur de centre, je comprends pas que ce gars-là ait été échangé. Tu sais, c'est un gars qui aurait pris le salaire à 1 million, il aurait joué ici de 15 ans, puis il aurait jamais eu de problème, puis jamais il aurait dit, ah, c'est difficile Montréal.
Les gens que Martin t'aimait pas.
Je pense qu'il n'y avait pas le joueur d'hockey.
Ils ont fait un match la semaine passée ensemble, justement.
Oui, on a fait un match à TVA Sport ensemble. C'était bizarre. J'ai dit, Jacques, veux-tu te lever debout en arrière de moi pour avoir le même sentiment lorsque tu étais mon entraîneur? J'étais assis devant toi tout le match.
L'autre chose que je veux parler, c'est que comment ça a dévié sur de l'alcool, votre affaire, là? C'était parti d'un soir de party. Ouais. Puis c'est revenu à l'alcool après, là, parce que c'est pas juste des podcasts maintenant. Là.
Non, exact. C'est rendu une entreprise en tant que telle. Puis ça a commencé rapidement au troisième, quatrième show qu'on a fait. Éric Lapointe, l'ancien joueur des Alouettes, nous a contactés. Nous a dit, hey, j'ai un chum qui part une bière 100% québécoise, qui veut appeler la Québécoise, la gang de Bill Boquet à Saint-Hyacinthe. Puis il dit, il serait peut-être ouvert à prendre la recette qu'il a fait, puis la mettre à votre brand pour essayer de mousser ça ensemble. Fait que nous autres, bah, pas de problème, on va l'essayer. Fait que c'est le seul produit qu'on a sorti sans jamais goûter. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est une bière, puis vite. Fait que je pense qu'après 6 shows, on avait une bière. On l'a goûté live avec le monde, puis finalement, c'est une association ensemble. Puis là, on est rendu à 3 bières. On vient de sortir la rousse à Max, on a un gin, une vodka.
Faut comprendre que le but dans tout ça, c'est que lorsqu'on discutait comment faire le tour du Québec, faire rayonner les produits québécois et tout ça, le mot qui revenait souvent, c'était les microbrasseries québécoises. Ça nous permettait de premièrement faire le party, mais aussi de voyager au Québec comme on l'a fait cet été. On est allé à Bécomo, on a passé du temps avec les gens de la région. Ça faisait partie du plan ultime, ça.
Puis là, j'ai bien compris que la poche bleue, évidemment, ça fait allusion au sac de hockey. Là.
Ben oui.
Hein, ça fait allusion au panier bleu.
Toujours.
Y a-t-il d'autres choses?
Non, c'est... mais c'est le petit double sens pareil qui est plaisant, qu'on aime quand que les gens disent le nom, puis là, ils disent... Pourquoi vous avez appelé ça de même, tu sais? Mais là, maintenant que ça grossit, on se dit, pourquoi on a appelé ça de même? Ouais,
ben, c'est parce qu'il y a rien qui fonctionne, là. Comme il vient de le mentionner, la poche bleue grossit, les dessous de la poche bleue. Ce matin, j'ai vu un article, c'était dans les coulisses de la poche bleue, tu sais. Ça fonctionne moins, là.
Non, mais ça vous a ouvert. La radio, la télévision, maintenant, vous êtes au match du Canadien à TVA, c'est devenu, là.
C'est devenu une grosse compagnie.
Exactement.
Voilà.
Ouais, c'est oui, c'est bien dit.
Merci, Guillaume Latendresse. Merci
de la pierre. Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.